Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs, qui est un peu spéciale aujourd'hui puisque je suis seulement avec Eva.
Bonjour à tous.
Et je suis Coralie et on va parler du livre Cendre, un essai qui vient de paraître en poche de Alice Géraud, mais aussi de tout un tas de choses qui sont sorties autour de la même thématique, qui est le violeur de la Sambre, des podcasts et aussi la série que vous avez sans doute vue sur France Télévisions à laquelle cette autrice a participé. Donc on va commencer par le livre. Eva, est-ce que tu veux nous résumer ce livre ?
Oui, tout à fait. Alors Alice Géraud, comme beaucoup de gens, a découvert l'affaire du violeur de la Sambre quand cette personne a été arrêtée. Alors c'est une histoire assez particulière puisque cette personne, donc, qui s'appelle Dino Scala, a été arrêtée en 2018 et c'est un violeur en série puisqu'il a commis des viols. Alors on pense qu'il a commencé vers 1988 jusqu'à son arrestation, donc ça fait quand même 3 décennies. Et en plus, tous ces viols finalement ont été commis dans un périmètre très restreint, le long d'une route sur, on va dire, 27 kilomètres hein, entre la France et la Belgique. Donc vraiment un lieu très circonscrit, oui. Énormément de victimes, puisque le procès a identifié 55-56 victimes. Il y en a peut-être d'autres. Et il y en a sans doute d'autres. Et puis voilà, c'est une personne qui n'a pas, on va dire, le profil qu'on peut s'imaginer pour quelqu'un qui viole le long d'une route. C'est un père de famille classique, c'est quelqu'un qui est très bien intégré dans la société, qui est président d'un club de foot ou entraîneur d'un club de foot, que tout le monde connaît.
Donc pote voilà. Avec la police.
Exactement, c'est une petite communauté. Et donc effectivement, Alice Géraud entend parler de cette affaire. Et donc, elle retrace l'affaire et ses errements. On va en parler toutes les deux. Et puis, surtout, elle s'intéresse beaucoup aux victimes, oui. Puisque finalement, ce sont les grandes oubliées de cette affaire. Donc, errements de la justice, victimes qui ont été quand même très négligées dans toute cette affaire. Et donc, voilà, c'est ce qu'elle va raconter dans ce livre qui est basé sur ce fait divers, entre guillemets, puisque...
Là, on est à beaucoup de faits divers.
On est d'accord.
Merci Eva. Et alors juste pour bien, parce que tout le monde a une histoire avec ce livre, est-ce que tu l'as lu avant de voir la série, est-ce que tu l'as lu après avoir vu la série, est-ce que tu connaissais déjà cette histoire déjà ?
Oui, alors j'en avais entendu effectivement parler puisque l'affaire a été médiatisée quand ce violeur a été arrêté. Quand le livre est sorti, ça a fait quand même pas mal de bruit. En plus, moi, je m'intéresse quand même pas mal à tout ce qui est procès, faits divers, etc. Donc oui, je connaissais le livre, je connaissais l'affaire. En revanche, j'ai commencé par regarder la série qui est passée sur France Télévisions il y a quelques mois. C'est une série, je crois, en 6 ou 7 épisodes. J'ai d'abord vu la série et ensuite j'ai lu le livre.
Ouais, 6 épisodes, c'est ça. Donc c'est une série réalisée par Jean-Xavier Lestrade et créée par Alice Géraud et Marc Herpoux.
Donc en fait, l'autrice est à l'origine aussi de la création de la série.
C'est ça. Et moi, j'ai regardé la série parce qu'il y avait des très bonnes critiques de cette série et j'ai découvert comme plein de monde en fait qu'on a... On a été nombreuses et nombreux à être attirés par le livre parce que certaines choses sont tellement incroyables quand on regarde la série, tellement stupéfiantes dans le déroulé des événements qu'on se dit « Non, là, c'est peut-être pour la série. » Et donc, on a envie vraiment de lire le livre. Et je pense que ça marche très bien dans les deux sens. C'est très intéressant de... On parlera après de chaque chose en détail, mais c'est très intéressant... Je pense dans les deux sens. Moi, qui écris des livres, j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment ils avaient... D'ailleurs, elle en parle très bien quand elle parle de la série. Comment ils avaient créé certains personnages pour faire un type de victime.
Tout à fait.
Mais qui existe quand même en tant que tel, mais qui, quand on lit le livre, se révèle être un ensemble...
C'est
sorte voilà, de composé avec des détails d'autres victimes.
De persona, comme
voilà,
on dit,
ça,
dans le marketing et dans le digital.
Ça.
Et elle le dit d'ailleurs très bien dans le podcast, qu'avec toutes ces victimes, on ne pouvait pas en mettre seule, en fait, ou en choisir quelques-unes. Pourquoi en choisir une par rapport à une autre? Et donc, finalement, il y a eu des sortes de personnages, de victimes type, effectivement, dans la série. Et la série, même sur par rapport à certaines choses, va mettre parfois aussi en évidence, il y a la seule personne politicienne, oui, en fait, qui s'intéresse vraiment au sujet, qui est très effrayée par ce qui se passe, qui veut avertir, qui veut soutenir les victimes et qui veut vraiment avertir les femmes qui a un problème dans la région. Donc c'est une mère qui s'appelle Annick, je sais plus son nom exactement. Finalement, elle est le personnage principal d'un des épisodes, alors que finalement quand on lit le livre, je pense qu'il y a un chapitre qui lui est consacré, mais sur peut-être 50 chapitres. Pareil pour une juge, effectivement. La géomaticienne, il me semble que c'est ça. La géomaticienne, ça doit faire 3 paragraphes finalement dans le livre. Mais finalement, les créateurs de la série ont choisi d'extraire un personnage extrêmement secondaire finalement du livre pour en faire un épisode en tant que tel qui était d'ailleurs ultra intéressant. Il y a des vrais partis pris en fait dans cette série par rapport au livre. Et je trouve que les deux se complètent bien, il n'y a pas vraiment de redite.
Oui, c'est ça. Ils bénéficiaient vraiment d'une base extrêmement riche, extrêmement solide. Il y a aussi l'idée qu'ils se sont concentrés, parce que quand on lit le livre, qui est quand même d'une certaine longueur,
il est dense
parce qu'elle n'a rien voulu laisser sur le bord, parce que tout est important dans une telle affaire et elle a bien raison. Au début du livre, il y a des passages qui sont complètement pas utilisés dans la série, un passif de cet homme en fait, auprès de sa famille. Qui est très intéressant parce que ça révèle vraiment un homme déjà, enfin il n'a pas fait que ça, il a aussi été incestueux, c'est un homme agresseur de tout le long de sa vie en fait.
Alors il est pas incestueux,
non, pas vraiment,
dans le sens où il s'attaque pas à sa propre famille. En revanche, effectivement, et j'étais aussi surprise que toi de le lire dans le livre, dans la série dans la série elle met en avant qu'il y a une histoire trouble familiale, mais dans sa généalogie à lui, puisqu'on voit qu'il y a la famille est brouillée, voit que le père est une personne trouble, qu'il aurait été accusé d'inceste, etc. Donc on se dit il y a quand même quelque chose de pas clair dans cette famille, et on y reviendra, mais Ali Géraud, on parle très bien d'ailleurs dans le podcast, elle dit des choses très intéressantes, elle analyse très bien ça. En revanche, la série le présente comme un père de famille classique, sans aucune histoire. Or, le livre, on découvre qu'en fait, la famille parfaite, c'est la deuxième famille, qu'il a eu une famille avant ça, et que déjà à l'époque, il a été accusé par ses belles-sœurs, on va le dire. Et on voit que par rapport au viol, comme on peut nous les raconter, où on a l'impression que c'est une sorte de pulsion, il est au bord de la route, il voit une nana et il essaye ou il la viole. Là, on découvre un personnage, une préméditation, une fourberie incroyable au sein même de sa propre maison, ce qui est complètement fou et qui donne un éclairage, je trouve, complètement différent par rapport à cette personne. Et Alice Giraud, justement, pour moi, c'est ça aussi, entre guillemets, la valeur ajoutée du podcast dont tu m'avais transmis le lien.
Et on les mettra.
On les mettra, effectivement. Et elle a cette analyse aussi très fine par rapport à ça. C'est que finalement, il y a des choses qui se sont passées dans sa famille, dans sa jeunesse, et finalement l'impunité qu'il a pu y avoir par rapport à ça, c'est-à-dire que tout le monde a étouffé l'affaire, tout le monde s'est tu, il n'a jamais eu à répondre de ses actes au niveau de la justice, finalement, quelque part, est-ce que ça lui a pas donné aussi un blanc-seing pour les 30 ou 40 années qui ont suivi?
C'est vrai que c'est assez fou. Donc il y avait ça qui m'a amené dans ce qui m'a amené à passer de la série au livre, il y avait notamment cette scène, je voudrais qu'on y revienne, sur le portrait au commissariat.
Oui.
Je pense que c'est une scène, quand vous voyez la série, qui est complètement dingue et assez mythique, et je pense que c'est une des scènes...
Et qui est vraie.
Donc c'est là quand je me dis, je vais lire le livre, parce que peut-être que ça s'est pas exactement passé comme ça. Et en fait, si les policiers l'admettent, une fois son portrait robot est affiché dans le commissariat.
Et un portrait robot très précis.
Très précis. effectivement, qui a été fait grâce à la parole, à quelqu'un qui a enfin écouté une victime et qui a une victime qui est très physionomiste et qui a réussi à faire un portrait robot vraiment troublant de ressemblance. Et lui, donc Dino Scala, le commissariat est vraiment dans cette bourgade, dans le lieu de vie. Voilà, on y fait des fêtes, des pots de départ, on y convie, voilà, les entraîneurs du club de foot, c'est tout à fait naturel, ça. Et donc Dino Scala se retrouve près de son portrait et en fait choisit de souligner la ressemblance d'un air goguenard. Alors, vous m'arrêtez en tendant les poignets, autrement dit, bah, c'est moi là, vous voyez pas, c'est moi. Donc c'est une provocation intenable et en même temps sans doute la meilleure façon de casser la suspicion si elle devait arriver le lendemain.
Et d'ailleurs, elle n'est jamais arrivée, la suspicion.
Elle n'est jamais arrivée. Voilà. Mais quand on voit cette scène dans la série, il faut dire que tous les acteurs sont remarquables, vraiment à tous les niveaux. Quand on voit cette scène dans la série, on dit, c'est plus... On n'aurait pas osé imaginer ça dans une fiction et on se serait dit c'est trop gros.
Je suis d'accord, c'est vraiment l'archétype de la réalité dépasse la fiction.
C'est ça, exactement.
Et c'est ce qui est très troublant dans cette affaire. Comme je disais un peu en préambule pour bien resituer, c'est que finalement, tout se passe, on n'a pas affaire, par exemple, comme on peut le voir des fois dans les serial killers ou les serial violeurs aux États-Unis ou... Les gens, on a énormément de mal à les attraper parce que, je sais pas, c'est un chauffeur routier ou c'est un VRP. C'est quelqu'un qui va se balader un peu dans tous les états et qui profite effectivement de ses déplacements pour violer et qui, entre guillemets, sème des viols à droite à gauche dans tout le pays. Là, on parle d'un mec qui est grégaire, qui est né, qui a vécu, qui a travaillé, qui s'est marié, qui a joué au foot dans finalement périmètre de quelques kilomètres carré. Et les victimes, d'ailleurs, elles le disent après au niveau du procès, on se retrouve avec des victimes soit qui, sans le savoir, se connaissaient entre elles, disent mais on a travaillé ensemble au même hôpital, on était à l'école ensemble, elle habite dans ma rue, voire encore pire, des victimes qui, sans le savoir, avaient un lien, alors pas forcément un lien fort, mais un lien en tout cas avec le violeur, et qui disent, mais attends, mais lui, il bossait avec mon père, lui, c'est l'ami de, c'est le cousin de mon voisin, j'étais à l'école avec ses enfants, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est un pilier d'une communauté. Et c'est ça qui est complètement incroyable, qu'il ait pu agir avec une telle fréquence et aussi une telle violence sans que finalement personne ne se doute de rien dans un cercle aussi réduit. On se dit quand même, enfin, quels sont les dysfonctionnements, et il y en a des tas, des dysfonctionnements, je veux dire, c'est pas un dysfonctionnement, c'est une série de dysfonctionnements divers et variés pour qu'un mec qui, entre guillemets, chie là où il dort, ne se fasse pas arrêter pendant 30 ans. Désolée pour ce petit... mais bon, enfin, faut le dire quand même. Le mec, il va pas à 100 km commettre ses forfaits. Il le fait sur la route où il passe tous les jours pour aller travailler.
Et la série joue beaucoup de ce malaise-là. Je trouve peut-être encore plus que le livre, parce que comme le livre... après, le livre ne joue pas sur un malaise, et c'est normal, c'est un livre documentaire. Mais la série, là, voilà, c'est une œuvre de fiction basée sur des faits réels, donc il faut une tension spécifique. Et je trouve qu'ils font très bien ça, cette proximité tout le temps, cette présence, même on le voit au supermarché, une victime croit reconnaître ses chaussures et elle se trompe pas, en fait.
Ses chaussures, son odeur.
Voilà, alors l'odeur aussi, il y a quelque chose de très organique dans la série. Parce qu'en fait, toutes les victimes dans le livre, ça arrive pas tout de suite dans le livre.
Ouais, mais elles finissent par le dire.
Voilà, c'est ça. C'est très intéressant vraiment de faire dans cet ordre-là. Vous pouvez voir, vous pouvez regarder la série, voir si ça vous intéresse. Vous armez un petit peu parce que le livre est forcément plus détaillé que la série, puisqu'elle parle vraiment du vécu des victimes, sans complaisance,
non,
évidemment.
Non, ça, je pense qu'il faut qu'on le dise aussi, Coralie, c'est que. Elle aurait pu aller vraiment dans quelque chose de très glauque, avec des détails sordides. Elle a choisi, alors elle ne cache rien.
De police, quasiment.
Elle ne cache rien, mais c'est quand même... elle reste quand même à une certaine distance. Et moi, j'ai trouvé... Forcément, je pense que quand on est une femme et qu'on lit un livre sur le viol, on y va quand même un petit peu à reculons. Je pense qu'on peut avoir peur d'être heurté. Et je trouve qu'elle a trouvé la bonne distance... pour quand même raconter ce qui se passe, mais d'une manière finalement, oui, comme tu le dis, assez policière, assez clinique, assez factuelle, tout à fait, mais sans rentrer dans un glauque ou dans un sordide qui finalement est réel et qu'elle aurait pu exploiter.
Mais la répétition crée quand même un énorme malaise.
Moi, j'en ai.
C'est intenable, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut pas. Enfin, moi, je parcourais les scènes pour voir s'il y avait des détails qui, sur l'intrigue, était important, par exemple si telle personne mentionnait l'odeur, des choses comme ça, mais je ne lisais plus au bout d'un moment les scènes, et ça m'a posé une vraie question sur cette répétition qui est très dure à gérer. En fait, c'est normal que ça y soit, et on passera sans doute pas toutes les mêmes passages ou les mêmes scènes, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi je l'ai parcouru.
Je suis d'accord avec toi, parce qu'effectivement un auteur, normalement, se doit d'éviter la répétition. Là. Or là, comme c'est... Et puis, c'est souvent les mêmes modes opératoires aussi. Bah, faut quand même se dire, il y a 56 victimes identifiées. Et donc, à un moment donné, elle les liste les unes après les autres. Et même nous, déjà, en tant que lecteurs, on commence à en avoir ras-le-bol. On commence à s'impatienter. Mmh. Et après, je me suis dit, mais oui, mais imagine que quand nous-mêmes, en tant que lecteurs, alors que... On va pas
c'est
se mentir,
on
a un peu que ça à faire de lire, on a choisi de lire ce livre, et on sait qu'il y a plein de victimes, on commence à en avoir ras-le-bol, mais tu te dis, quand tu regardes ça avec effectivement le recul d'une affaire criminelle, c'est juste encore plus insupportable, et moi je suis contente qu'elle l'ait fait finalement.
Ah, pour moi c'est complètement le bon choix de l'avoir fait, vraiment, c'est ce que je dis, c'est cet état dans lequel ça nous met, pour moi, il devait exister. Il fait partie, il est partie prenante complètement de ce livre. C'est vraiment, c'est vraiment très très important. Et aussi, il y a un élément de la série que moi je voulais questionner avec le livre aussi. Je me suis demandé si toutes les histoires de la géomaticienne, je sais plus si c'est exactement
géomaticienne, je crois.
En fait, c'est quelqu'un, c'est une science qui se propose de déterminer un profil géographique type de certains événements, de croiser tous les comptes rendus d'enquête, etc.
C'est comme du big data, appliqué à la géographie.
C'est ça, c'est de l'analyse de data appliquée à ça. Et donc, dans la série, il y a tout un épisode avec Clémence Poésie là-dessus. C'est très intéressant parce que ça montre aussi comme cette affaire peut vite bouffer quelqu'un d'une autre spécialité qui met son nez dedans. Parce que quand on la prend au sérieux, ça saute aux yeux. On voit aussi des erreurs qui ont pu lui être communiquées, des profils que lui donne la psy qui ne sont pas du tout le profil que nous, on sait être celui du violeur. Et moi, en lisant le livre, en regardant la série, j'avais fait l'hypothèse que peut-être c'était une transposition pour nous impressionner de quelque chose qui, à l'époque, était impressionnant, mais qui ne l'est plus, par exemple, les tests ADN ou des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont transposé sur un autre type de science. Et en fait, non, vraiment ça. C'était vraiment ça. Il y a vraiment une personne de cette spécialité qui apparemment n'était conduite à l'époque, du moins qu'aux États-Unis, qui a mis son nez dedans et qui avait quand même tiré encore une fois des conclusions qui auraient pu servir et qui n'ont pas du tout été exploitées, puisqu'elle avait quand même déterminé le lieu de travail, le type de travail qu'elle exerçait, la zone. Enfin, c'était quand même
Elle est allée très proche, mais en fait, c'est ce dont on s'aperçoit en fait dans ce livre. C'est que c'est pas une histoire, c'est pas une affaire dont tout le monde se moquait, en fait. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été de près ou de loin impliqués dans cette affaire. Enfin, quand j'ai impliqué pour la faire avancer, il y a eu des travaux de juges, il y a eu effectivement ces chercheurs, il y a eu des policiers aussi qui, certains ont été lamentables, mais d'autres... Et Franck Martins, qui est dans un des épisodes de podcast aussi qu'on va partager, on sent que c'est quelqu'un, effectivement, qui avait à cœur de trouver ce violeur, que lui aussi, ça l'a bouffé. Et donc, on s'aperçoit finalement qu'il y a des choses, je pense, où... c'est la faute à pas de chance, dans le sens où, effectivement, quand il commence à violer, l'ADN, il n'y en a pas encore. Quand les analyses ADN, pardon, quand ça commence à arriver, il y a des loupés, des très gros loupés dans l'affaire, qui font qu'il aurait pu être arrêté bien plus tôt. Et quand on dit, il aurait pu être arrêté 5 ans plus tôt, il faut aussi se dire que 5 ans plus tôt, c'est peut-être 20 victimes en moins, ce qui est absolument énorme. Il faut toujours penser pas en mois, en années, mais en nombre de victimes, quoi. Enfin, des personnes qui sont traumatisées. Mais à chaque fois, on voit, il y a des juges, effectivement, qui ont des idées,
oui.
des policiers qui ont des idées, des chercheurs qui ont des idées, la mairesse
oui.
Qui essaye de médiatiser l'affaire. Enfin, tout le monde, enfin, beaucoup de gens, finalement, ont de la bonne volonté, essayent vraiment. Mais à chaque fois, à chaque fois, il se passe un truc où ça foire, ça foire, en fait. Et il faut le dire, en 2018, il est arrêté. Pourquoi il est arrêté? C'est pas le fruit d'une longue enquête,
non.
C'est un hasard complet. C'est que, comme il y avait eu les attentats en 2015, ça a été renforcé au niveau surveillance. Il y a un maire qui a dit « Ah, je vais mettre une caméra de surveillance sur le parking d'une gare. » Il se trouve que Scala a essayé de violer une jeune fille à cet endroit-là et que comme elle a porté plainte, elle a témoigné, ils ont récupéré en fait l'immatriculation de la voiture qu'il utilisait. Donc, entre guillemets, ça fait partie de l'enquête, mais c'est du pur hasard. Le profil n'a jamais rien donné, ils n'ont jamais circonscrit leur recherche. Enfin, je me dis quand même, c'est une personne qui a bossé pendant 30 ans dans la même usine. Au bout d'un moment, peut-être que se dire, bah, c'est un employé, un salarié de la zone industrielle. Pendant 30 ans, est-ce que finalement, regarder le listing de tous les employés, faire des croisements, t'enlèves les femmes, t'enlèves les gens trop jeunes, trop âgés, les gens qui n'ont pas forcément les horaires de travail, au bout d'un moment, peut-être qu'ils auraient eu 300 suspects, et que quand t'as 300 suspects, c'est quand même vachement plus facile que quand t'en as 3 millions, quoi. Et je voulais dire aussi quelque chose, moi, qui m'a énormément choquée par rapport au livre. Déjà, faut le dire, et on l'a dit, mais peut-être qu'on n'a pas assez insisté dessus, le fait que la façon aussi dont ont été traitées les
bien
victimes,
sûr, bien sûr.
C'est que, oui, on peut dire qu'il n'y a pas toujours eu les analyses ADN, que, effectivement, bah, même si c'est dans une petite zone géographique, à l'époque, tout n'était pas informatisé, il n'y avait pas forcément les croisements qu'on peut avoir maintenant, qu'il y avait des plaintes qui étaient prises à la police, d'autres à la gendarmerie, qu'entre villes, même quand les villes étaient proches les unes des autres, ça ne communiquait pas forcément. Il y a eu des cas en France, il y a eu des cas en Belgique.
Oui, mais les entretiens...
Donc, mais les victimes, la plupart... étaient toutes des femmes, bien sûr, mais la plupart, et le policier le dit très bien, et Ali Giraud également, c'était des femmes, souvent de milieux modestes, puisque c'était des femmes, en fait, qui marchent à pied le long d'une rue à 5h30 ou à 6h du matin. Donc souvent, ce sont des ouvrières, ce sont des femmes qui travaillent à l'hôpital, ou ce sont des adolescentes qui vont prendre leur bus pour aller au collège, au collège ou au lycée. Et il faut dire que la parole de ces femmes a été traitée d'une manière absolument épouvantable. Et il y a des retranscriptions de témoignages où les policiers mettent en doute ce qu'elles disent, leur posent des questions qui sont dégradantes, insultantes au possible. Limite, elles doivent se justifier. On les prend pour des folles, on les prend pour des parano, alors qu'elles sont absolument traumatisées.
Ou on leur demande, pour les jeunes filles, si elles ont déjà eu des relations sexuelles, comme
on
si...
On s'en fout, en fait.
Ouais, hein. Comme si
c'est
ça
open
pouvait...
bar, voilà, voilà quoi. On leur donne pas de suivi non plus. Il y a des plaintes qui n'ont finalement pas été prises, des plaintes qui ont été perdues, pas de suivi sur les dossiers. Finalement, la seule qui arrive à avoir de l'information, c'est quelque part celle qui a le niveau social le plus élevé, le niveau d'études le plus élevé, parce que elle sait qu'elle peut prendre un avocat, se mettre partie civile, donc elle a accès à des informations. Mais les autres, elles sont bousillées et dans leur solitude de victime, sans même savoir qu'en fait, elles sont une victime. Parmi d'autres.
Alors moi, ça m'a touchée dans le livre, quand même. C'est pas dans le livre, quand même, on sait qu'il y a des... à l'hôpital, on sait que cet homme rôde, et il y a des victimes qui arrivent à s'identifier entre elles, qui en parlent entre elles, qu'il y a un homme qui rôde près de l'hôpital. Et je sais pas, parce que effectivement, on en avait pas parlé, mais c'est parce que c'est vraiment ce qui sous-tend la série et le livre, c'est cette histoire de parole des victimes. Hein. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est sûr. Et le fait de savoir quand même... Moi, ça m'a quasiment ému aux larmes de savoir que quand même, dans tout ce bordel, il y en a... un peu comme t'attrapes le bras dans un naufrage de quelqu'un, quoi. Y en a quand même qui ont pu se dire... Il y a un mec qui rôde et il a tenté ça sur moi. Enfin, il y a eu un petit dialogue, là. Un début de dialogue à l'hôpital qui a mené à rien, en fait. Si ce n'est peut-être à une vigilance accrue, peut-être certaines... On le sait pas, se sont mis à venir accompagner par leur mari en voiture, ou peut-être qu'il y a eu, quand même des choses grâce à cette parole qui ont évité plus de victimes vers cet hôpital. On ne sait pas.
On ne sait pas.
Mais en tout cas, ce dialogue a eu lieu. Et pour ces deux-là, on sait quelques-là. Quand c'est un paragraphe, je crois, dans le livre. Mais moi, vraiment, dans la série, il y a une telle solitude de chacune. Elles sont chacune dans leur tunnel et, dans, comme tu le dis, dans des quotidiens qui sont vraiment difficiles en plus. Enfin, et c'est le quotidien est censé tout recouvrir et ne recouvre jamais en fait. On voit bien qu'elles sont affectées.
Et on voit qu'Alice Giraud à chaque fois, donc elle retrace toute l'affaire, mais
elle rend justice.
Elle rend vraiment justice aux victimes. Ouais. Et d'ailleurs, moi, la scène qui m'a beaucoup émue, c'est la scène d'ouverture où c'est le procès.
Oui.
Et on voit une dame qui est appelée à la barre, qui se fait d'ailleurs maltraiter par le juge, encore une fois. Donc ça veut dire que même quand on sort de l'enquête, on est au procès, on sait qu'il est coupable. Et les victimes s'en prennent quand même plein la figure. Et c'est une dame de 75 ans qui témoigne. Parce qu'elle devait avoir une quarantaine d'années quand elle a été violée. C'était il y a 30
série,
ans. Et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, dans cette affaire, on se retrouve avec des femmes de 75 ans qui sont obligées d'aller au tribunal, de se faire malmener, parce que personne n'a été foutu d'arrêter ce mec pendant... Pendant des décennies. Et autre chose qui est pas si montrée que ça aussi dans la série, et moi qui m'a vraiment dévastée quand j'ai lu le livre, c'est qu'en fait il y a plein de victimes qui sont mineures.
Oui,
et quand je dis mineure, c'est pas 17 ans et demi,
non, 13 ans,
14 ans, 15 ans, 16 ans, enfin il y a de la pédophilie, quoi. Alors, c'est des collégiennes certaines.
C'est abominable, et ce qui est intéressant dans la série, c'est comment ça a été traité. Alors ça n'a pas été traité comme dans le livre, parce qu'on l'a dit, il y a une exhaustivité, une précision dans le livre qu'il ne peut pas y avoir dans la série, mais quand même il est question du fait, il me semble que quand il l'arrête, il veut pas dire, jusqu'à un certain point, en fait, il nie une partie de ce qu'il fait. Il admet certaines choses, très facilement, comme s'il allait se livrer. Et en fait, le policier, du moins au début, n'arrive pas à lui faire dire l'âge. Alors qu'il sait très bien, ils ont j'imagine, des cartables de collégiennes, des trucs avec des pompons suspendus au cartable. Je veux dire, tu sais, quand tu violes une collégienne, hein, tu peux pas te planter.
Non.
Donc, vraiment, c'est...
Et c'est un père de famille. Donc,
il sait
à quoi ressemble une adolescente.
Non, ça, c'est vraiment terrible. Et voilà, bon, enfin, je suis très contente de ce dialogue.
Et comme la peine qu'il a, il a 20 ans, et je crois qu'Alice Giraud en discute avec une victime. Non, il y a une victime qui prend la parole, qui est hyper carrée à la barre, et qui dit, vous vous rendez compte qu'il a fait 56 victimes, il a 20 ans. Ça veut dire que pour chaque viol, chaque vie bousillée, ça représente 3 mois de prison, en fait. C'est la forfaitisation, quoi.
C'est ça, il est passé au forfait. Bon, ça, c'est une autre question.
Mais ça ouvre beaucoup de choses, en fait.
C'est vraiment un livre
très
important. Alors, j'en ai parlé avec une autre lectrice qui avait vu la série, qui est passée par les mêmes seuils que moi. Elle s'est fait tous les podcasts et tout. Et on questionnait ce truc d'être habité par cette histoire, du mec à côté de chez soi. Quand vous vous lancez dans ce sujet, c'est vertigineux. Et donc, vous aurez sans doute envie d'écouter les podcasts. Donc, il y a un podcast Affaires Sensibles. Je vais vite dessus parce qu'on en a beaucoup, on l'a beaucoup mentionné en plusieurs épisodes avec l'autrice et co-créatrice de la série. Très intéressant parce que ça entremêle ce qui est vrai, ce qui est faux. En fait, ça répond à peu près toutes les questions que vous pourriez vous poser sur cette affaire. Et il y a un podcast très précieux, et je remercie, c'est Laure qui me l'a conseillé, de France Culture, où c'est le policier, comme tu disais, qui a finalement été à la fin de cette affaire, c'est-à-dire qu'il a repris les choses un peu sous forme de cold case. Alors j'en étais pas.
C'était cellule cold case. Alors en fait, le mec continuait à violer
pépouze. Mais bon, c'était considéré comme tel puis ça avait été classé plusieurs fois. Donc voilà, et donc on a la parole en première personne de ce flic et de comment il a vécu ça. Et ça, c'est vraiment incroyable d'écouter ça aussi et sa façon très posé, très, de parler de ça, très pro en fait, je trouve.
Mais tu sens qu'il y a une indignation
énorme pour les victimes.
Vraiment,
c'est pas grave, mais c'est réconfortant d'écouter ce podcast parce que tu dis.
Parce que la police a été tellement nulle en fait sur cette affaire et puis est tellement malmenée en fait finalement dans la série, mais à juste titre. Et le livre, que d'avoir un policier. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu son persona qui apparaît dans les derniers épisodes
de la série.
De se dire, punaise, il y en a enfin un qui écoute les victimes et qui veut leur rendre justice.
Oui, ça,
enfin.
ça nous soulage. Et en plus, ce personnage, il prend un petit peu le regard du spectateur à ce moment-là. Il nous permet d'avoir un rôle dans la série, puisque il a le regard sur ces flics un peu vraiment pas consciencieux, pas très sérieux. Il voit le bordel que sont les dossiers dans la cave. Tout ce que, en fait, nous, on constate parce qu'on a été embarqués en tant que spectateur, lui, en fait, il nous permet un soulagement de rentrer un peu et de faire bon, c'est plus possible, allez, on reprend les choses en main. Ça, c'est hyper bien construit. Et donc, ce podcast en plus grand vous donnera aussi l'occasion de ressentir ça, je pense. Donc, surtout, n'hésitez pas, si ça vous a intéressé la série, à faire la totale. Et sinon, si vous n'avez pas le temps, lisez le livre en preuve. Enfin, vraiment, le livre est incroyable. Il existe aussi en version audio. Je pense que c'est plus dur en version audio. C'est quand même un petit warning. Je pense que quand même, moi, j'aurais pas aimé l'écouter à cause de toutes ces scènes-là. Enfin, j'ai un truc avec l'audio, moi, et je pense pas que ça...
Je suis d'accord. Je pense que c'est...
Je pense qu'il vaut mieux le lire.
Quand c'est un document comme ça, c'est peut-être mieux, effectivement, de le lire en version papier, quoi.
Bah, merci. Eva, qu'est-ce que tu es en train de lire?
Alors, je suis en train de lire un livre qui a absolument rien à voir avec tous les sujets dont on vient de parler, mais qui s'appelle « L'inconnu du portrait de Camille de Peretti ». Et si vous aimez... Alors, quand même, il y a une petite affaire de faits divers, puisque ça part d'un vrai fait divers sur un tableau de Klimt. Donc voilà, si vous aimez Klimt et les faits divers, et les grandes fresques familiales et historiques... Bim, lisez ce livre.
C'est écrit pour toi.
Recommandation d'Eva. Voilà.
D'accord. Donc tu l'as lu en fait, tu l'as déjà fini presque.
Je l'ai fini presque.
D'accord. Moi j'écoute Les naufragés du Wager de David Gran sur un grand naufrage. Il avait écrit La note américaine dont on avait parlé dans les
temps.
Et c'est vrai que c'est un énorme bouquin là et je l'écoute en audio et c'est génial. Parce que, alors là, t'es sur des navires, c'est horrible, hein, ce qui arrive, c'est vraiment, c'est terrible, comme on s'imagine la vie sur de tels navires.
Et encore, il n'y a pas d'inoscala sur le...
Voilà, c'est ça. Mais c'est terrible, mais c'est hyper, c'est vraiment exactement ce que vous imaginez quand vous regardez la couverture. C'est les tempêtes, les naufragés, les histoires de qui est capitaine, et les scorbuts, la totale, les rats, enfin tout. C'est vraiment super intéressant, évidemment, toujours basé sur des faits réels avec David Gran. Je crois, au milieu. Mais ça s'écoute très bien, là, vraiment super bien. Bon, mais voilà, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour de nouvelles lectures. À bientôt.
À bientôt, au revoir.